Pour énerver la suite ce soir, direction les eaux, les réserves avec des animaux. Et ce soir, nos invités sont parqués dans le studio 621. Je vais faire les présentations, ça va nous permettre de caler les micros de chacun et de chacune. Je commence par vous, Marie-Claure Bomsel, vous êtes docteur vétérinaire très médiatisé. Vous êtes l'auteur entre autres de « Mon histoire naturelle vétérinaire auprès des animaux sauvages », c'est paru chez Artaud. Ça vous va comme présentation?
Ça va, et je suis professeur au muséum, ça vous... Non, c'est pas la
On
peine.
On rajoute, c'est parfait.
Professeur honoraire, hein.
C'est ça. Encore mieux. Ah. Paul Delapanouse, vous êtes créateur de parcs animaliers et vous publiez aux éditions de l'Archipel « Thoiry, une aventure sauvage ». Est-ce que ça va comme présentation?
Très bien.
Très bien. Julie Lannes, vous êtes éthologue de terrain, militante, consultante auprès de l'association Code Animal et représentante en France de l'association CASH. CASH, on rappelle ce que c'est?
Campaign Against Kind Hunting. Donc, ça lutte contre l'exploitation des animaux sauvages à des fins de divertissement, essentiellement les fauves.
Et enfin, Michel Saint-Jalme, vous êtes directeur de la ménagerie et responsable des pôles du parc zoologique du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Du pôle des parcs zoologiques,
oui. Ouais, c'est bon.
Et éventuellement aussi enseignant-chercheur au Muséum.
Et ben on va savoir ce que ça veut dire. Allez, la présentation est faite.
C'est bien de dire que, voilà, moi je suis consultante entre autres, mais j'ai également travaillé pour la FAO et également indirectement pour le Muséum, puisque j'ai travaillé aux dernières grandes expéditions avec Pronator International et l'UICN.
Et bien là, je crois que tout est dit. Comme générique. Ça,
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce Énerver la suite qui nous entraîne ce soir au paradis des eaux. Oui, à l'occasion de la parution d'un beau livre qui raconte, photo à la pluie, l'histoire du parc animalier de Thoiry. Et cette publication tombe plutôt bien car la semaine dernière, à Amiens, l'Association française des parcs zoologiques tenait son assemblée nationale. C'est quand même la réunion de 95 établissements pour d'une part faire le point sur la situation économique du secteur et d'autre part pour rappeler que les eaux et les réserves avaient bien changé. Un petit coup de communication utile pour les eaux français qui souhaitent démontrer que le bien-être animal et la préservation d'espèces menacées étaient au centre des préoccupations. Il faut dire que les eaux sont scrutées avec attention par de nombreux militants qui défendent la cause animale et qui luttent contre la maltraitance des animaux. Les eaux, est-ce que c'est toujours la loi de la jungle? C'est le titre imaginé par ce suricate de Benoît Lagan pour se énerver la suite très animalier, manifestement.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est joli, un suricate. C'est vrai. C'est vrai. Et ça a l'air très malin. C'est vrai aussi. C'est pour ça que je me suis trompé.
C'est le carnivore le plus agressif.
C'est vrai? Ah, voilà. Il cache bien son jeu.
Eh bien, c'est plus vous, Laurent.
Je me suis pas trompé. Solidaire dans sa famille.
Ouais.
Et redoutable.
Ah bah,
c'est en mortalité, ouais. En mortalité avec les familles voisines.
Ah bah c'est Benoît Lagan. Alors c'est la vie de Benoît Lagan que vous venez de résumer
en un mot. Bon, alors moi je vais revenir aux eaux. Il y a 5 ans, Laurent, quand le parc zoologique du Bois de Vincennes ouvrait à nouveau ses portes après une longue fermeture, le discours était pourtant clair. Désormais, le parc rénové allait enfin tenir compte convenablement du bien-être de l'animal. Pour autant, des critiques se faisaient encore tenaces sur l'ensemble des eaux français, malgré les évolutions du métier. Oui, bien installé dans des enclos plus larges, dans une bétonisation moins présente, dans des bassins avec de l'eau peut-être un peu moins croupie, Laurent, un animal captif reste toujours un animal captif. Et comme j'ai pu le lire, une espèce hors de son espace naturel n'est que l'ombre d'elle-même. C'était ce que j'avais lu dans un document d'une association. Pour autant, les parcs animaliers ne sont plus du tout ce qu'ils étaient autrefois. Il est loin le temps des captures d'animaux sauvages, comme on pouvait le voir par exemple avec les braconniers dans Tarzan. Non, les eaux ont bien changé, comme c'est le cas par exemple, quand on nous l'a montré souvent à la télévision, au bioparc de Douai-la-Fontaine, près d'Angers, où on travaille, dit-on, à la préservation et à la réimplantation d'espèces en voie de disparition. Dernière étape donc d'une mue qui a débuté en réalité peut-être il y a une cinquantaine d'années, quand dans des réserves comme celle de Thoiry, on a décidé de mettre non pas les animaux en cage, mais les humains. C'est vrai que moi, quand par exemple j'allais à la réserve de Sigean, j'étais en cage dans la voiture et il y avait ma mère qui gueulait parce qu'elle voulait pas que j'ouvre la fenêtre de peur que je me fasse avaler par le lion qui en fait tout du féroce, enfin surtout l'objectif hein, qu'il avait féroce, le lion en question.
Le parc de Sigean qui a été créé par moi en 74.
Paul Delapanouse. Ben justement, Paul Delapanouse, j'ai cette première question pour vous. Mettre les animaux hors des cages, finalement, et mettre plutôt les humains en cage, c'est votre formule, hein, je l'ai piqué dans votre livre. C'était pour quoi faire? C'était pour améliorer la condition animale ou pour créer de l'animation et faire finalement d'un zoo une sorte de premier parc d'attractions?
Pas du tout. C'est pas du tout parc d'attractions, puisque justement, encore maintenant, une partie de notre du public préfère voir les animaux avec une plus grande densité que dans nos parcs du groupe Thoiry, comme à Sigean, Pau ou Thoiry, où les animaux sont en semi-liberté. Et quand les hippopotames à Thoiry sont sur 8000 mètres carrés d'étang, font leur mare debout, quelquefois on ne les voit pas. Par contre, dans d'autres parcs, et ils sont dans une piscine avec de l'eau claire, on les voit nager, c'est une autre approche. Mais ils ont un sol en béton obligatoirement, il faut que l'eau soit nettoyée, ce qui, point de vue écologie, était un peu différent qu'un étang naturel. Voilà, donc nous avons fait nos choix sur Thoiry, plutôt du bien-être animal, sachant que quoi qu'on fasse, on ne reconstitue pas la nature du milieu naturel.
Bien sûr.
On est un théâtre de la nature. Mais si on peut offrir aux animaux des conditions de vie où ils puissent exprimer leur comportement, et puis là, il faut faire très attention. À Thoiry, les ours sont... Il y a des arbres, les singes aussi. Les mettre dans une prairie, même de 100 hectares, ne sert à rien. Et puis, il faut savoir qu'il y a des animaux qui sont fichés éperdument de l'espace. Une vipère à spic vivra dans un jardin à un mètre carré toute sa vie. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est les conditions physiologiques. Donc, je suis parti. Thoiry, c'est des jardins à la Renaissance, des jardins à la Française, des jardins romantiques plus naturels que nature. Et le parc, c'est un rêve de la biodiversité de la fin du XXe siècle. Parce que ce qui est le plus important à Thoiry, ça n'a pas été de mettre les visiteurs en voiture, c'est de mettre plusieurs espèces ensemble sur le même territoire.
Julie Lannes, vous êtes déjà allée à Thoiry ?
Oui, tout à fait. Depuis mon enfance, voilà, j'ai été amenée là par mon grand-père. Et quand j'étais enfant, je dois dire qu'effectivement, parce que je n'avais pas conscience des choses, et en ayant vu à côté le zoo du Jardin des Plantes, par exemple, où j'étais assez choquée, j'avais beau être enfant, je comprenais très bien en voyant l'ours qui faisait du rolling, qui tournait la tête et qui se retournait sur lui-même, je voyais clairement une différence en allant à Thoiry, où j'avais un sentiment de voir les animaux en liberté.
Et aujourd'hui, que vous n'êtes plus l'enfant que vous avez été, comment vous regardez ça ?
Aujourd'hui, où on est informé, où on a pu voir les choses, où je travaille effectivement avec les animaux en liberté, à leur réintroduction, à leur observation, etc. Une cage reste une cage, un enclos reste un enclos. C'est le problème que nous avons même dans les réserves. Une réserve, le parc Kruger n'est qu'une grande réserve, c'est-à-dire un grand enclos surveillé. Ce qui veut dire qu'il y a du brassage. Enfin, vous ne pouvez pas avoir ce qui occupait les animaux avant, c'est-à-dire des migrations, c'est-à-dire une sélection qui s'opère naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une régulation. Régulation veut dire abattage, veut dire translocation de certains animaux. Voilà, c'est des tas de choses comme ça, avec tous les problèmes qui se posent aujourd'hui avec le réchauffement climatique et avec la sécheresse, etc., où il y a effectivement des abattages massifs, quand il y a les périodes de sécheresse, par exemple en ce moment, où il y a des abattages massifs de buffles, parce qu'il n'y a plus assez de prédateurs, et donc effectivement, ils sont tous infectés par la tuberculose bovine,
et
etc.
Vous pensez que c'est mieux pour un gnou d'être dévoré par un lion alors qu'il est encore vivant que d'être abattu par un garde professionnel qui va essayer de limiter la souffrance de l'animal.
Julie Lannes ?
Alors, pour voir les choses comme elles se passent sur place, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour voir les lions, d'abord, il faut voir comment ils les tuent, généralement. Ils les étouffent, etc. Donc l'animal perd connaissance. C'est pas plus cruel pour moi que dans un abattoir. Et quand on voit les gardes, ce qui se passe, quand on parle, il faut parler d'abattage, quand on parle de régulation, ce ne sont pas les chasses, ce qu'on appelle la chasse au trophée, la chasse dite de conservation, qui est une vaste escroquerie. Parce que quand on parle de chasse de conservation, ce n'est pas trois chasseurs en tirailleurs qu'on envoie. On envoie l'armée. Et par exemple, quand il y a un surplus d'éléphants, on va envoyer l'armée qui va abattre massivement toute une troupe d'éléphants. Voilà comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on a d'autres techniques qui sont la translocation à des endroits où il y a moins d'espèces, qui sont effectivement la sélection génétique, qui sont également effectivement les implants progestatifs, etc. Disons qu'il y a différentes choses. Et effectivement, les corridors aujourd'hui, les corridors transfrontaliers entre différentes espèces permettent des migrations et permettent effectivement aussi une régulation.
Marie-Claude Bomsel, sur le sujet.
Bonsoir. Sur le sujet. Bon, tout le monde a raison et tout le monde a tort. D'abord, qu'est-ce que le bien-être animal ? Je voudrais qu'on me le définisse, c'est très compliqué. Bon, moi, j'ai travaillé au muséum, à la ménagerie, donc je suis toujours coupable. Et je me le sens coupable, soyons honnêtes. J'ai passé toute ma carrière à peu près là, et je n'ai jamais réussi à faire évoluer ce zoo tel que je voulais. Mais par contre, j'estime avoir favorisé nettement, comme beaucoup de mes confrères, le bien-être animal. Parce que c'est plus du tout la même chose. C'est pas des animaux qu'on récupère dans la nature, ce sont sont des animaux élevés dans les parcs zoologiques avec des, ce qu'on appelle du coaching, du training, de l'enrichissement de milieu, un entourage complet. Des animaux qu'on sait ne pas pouvoir réintroduire pour beaucoup dans la nature, qui sont terriblement choyés. Et à partir de ce moment-là, j'estime avoir fait, moi, mon devoir dans la mesure de mon possible. Et je sais en plus que je suis passé de prédateur de la nature, comme étaient autrefois les zoos, à pourvoyeur potentiel, parce que très peu sont réintroduits, mais en tous les cas, conservateur, avec le côté certes bocal, mais ma foi, c'est déjà un plus que de conserver des espèces qui vont disparaître inéluctablement. Et pour revenir dans la nature, et j'en finis, j'ai eu la chance, moi, d'aller voir les gorilles au Rwanda, c'est absolument merveilleux, parce que vous êtes effectivement dans la nature, là, mais dès que vous discutez avec les gardes, ils vous expliquent que, d'abord, on voit, c'est complètement entouré de gens avec des mitraillettes contre les braconniers, contre le départ des groupes, contre le fait que déjà ces animaux sont également confinés, que s'ils passent en RDC, ils sont immédiatement braconnés. Donc une fois de plus, tout est dans le tout et où est le bien-être, vous et moi, où est notre bien-être, c'est difficile à dire alors pour l'animal.
Michel Saint-Germain, comment aujourd'hui vous travaillez, donc, par exemple à la ménagerie, pour aller encore plus loin que ce que Marie-Claude Baumsel vient de dire. Elle a dit que pendant toute sa carrière, elle avait tenté. Aujourd'hui, où on en est ?
Ben moi, je suis l'un des successeurs de Marie-Claude à la ménagerie. Donc aujourd'hui, je dirige la ménagerie depuis une dizaine d'années.
Donc vous êtes encore coupable ?
Donc je suis encore coupable et je travaille énormément pour expier ma faute et pour cela et améliorer le bien-être animal. Et le dernier ours dont on parlait tout à l'heure est parti justement à Thoiry pour son bien-être en 2014. Ça a été l'un des derniers gros animaux à être parti de la ménagerie. La semaine dernière, ou plutôt il y a une quinzaine de jours, on a fait partir les yaks, encore une grande espèce qui a été remplacée par des potamochères dans l'enclos, donc deux mâles potamochères dans un enclos où vous aviez une famille de yaks. Donc progressivement, nous faisons partir les grands animaux pour les remplacer par des animaux de petite taille et des animaux faisant partie de plans d'élevage européens pour conserver cette variabilité génétique dans ce qu'on appelle des élevages conservatoires. Aujourd'hui, 50 des 150 espèces présentées à la ménagerie font partie de ces programmes d'élevage et sont des espèces menacées d'extinction. Donc progressivement, on fait partir toutes les espèces communes, toutes les espèces de grande taille et on les remplace par ces espèces de petite taille en faisant très très attention à leur bien-être puisque aujourd'hui, le bien-être, c'est, la priorité numéro un des vétérinaires et de tous les soigneurs qui travaillent à la ménagerie et dans beaucoup de zoos aujourd'hui en France.
On va revenir sur le dossier dans quelques instants sur la biodiversité, mais aussi sur l'évolution des zoos, notamment dans leur présentation aux clients, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. On appelle ça aussi des clients et pas simplement des visiteurs. Mais on quitte les zoos tout de suite pour le livre de la jungle avec le crooner Louis Prima. C'était Balou, hein. I wanna be like you.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around, oh, ooby-doo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. Shoo-bidi-doo. An ape like me, Scooby-Dooby-Dooby, can learn to be human too.
Try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Aurélie pour tous, on a un vautour qui est passé chez le voisin.
Le nouveau rendez-vous.
Ici c'est plus calme.
Alors c'est plus calme, oui, parce qu'ils sont plus petits, mais ça reste des alligators.
Regardez comme elle est belle.
Ah, c'est trop mignon. Mais c'est énorme.
Ah bah oui, c'est une hyène, hein.
Toutes ces espèces cohabitent très bien.
Laurent Goumard.
Dans ce bel espace qui évoque le milieu naturel de tous ces animaux.
Sur France Inter.
Zoo et biodiversité dans le NRV, la suite ce soir avec pour en parler, il parle déjà d'ailleurs, Michel Saint-Jalme de la ménagerie, Marie-Claude Bomsel, vétérinaire star, Julie Lannes, éthologue de terrain et Paul de la Panousse, fondateur de Touareg. À ce propos, Paul de la Panousse, vous dites que Touareg est une arche de Noé contemporaine, la formule est assez belle, qui valorise la biodiversité en reproduisant les espèces en voie de disparition. Est-ce qu'un plan de réintroduction au milieu naturel est à l'œuvre aussi?
Il y en a plusieurs. Et ma fille, d'ailleurs, a amené des aspirations d'une jeune génération, plus écologique que la mienne. Ça s'est traduit par l'Arche des Petites Bêtes, et quand on a dit ça, vous parliez de clients, on dit l'Arche des Petites Bêtes, ça va attirer personne. Il se trouve que il y a des petites andrebates, et là, on a sauvé les... On participe aux sauvegardes des escargots de Partula, disparus de la Polynésie française, réintroduits depuis peu par le zoo de Londres, et nous, et l'Arche des Petites Bêtes. Et donc, les bisons qui naissent à Touareg partent en Roumanie pour être réintroduits en forêt primaire. Les oryx blancs d'Arabie, grâce aux zoos américains, il y en a de nouveau en Arabie Saoudite, il n'y en avait plus. Et c'est d'ailleurs un Français, Jacques Flamand, africain du Sud.
Un nom prédestiné.
Oui, qui s'en est occupé. J'avais, moi, transféré 600 animaux d'Afrique du Sud en surplus dans le parc de Yamoussoukro. Malheureusement, ils étaient devenus des milliers. Et la guerre civile, tout a été tué et mangé. Donc on va recommencer, en Côte d'Ivoire, j'y retourne.
Julie-Hélène, ça vous convainc? L'histoire de la préservation des espèces en voie de disparition dans les réserves ou dans les zoos?
Il faut distinguer.
Oui, c'est pour ça que je vous posais les deux.
Dans les zoos, et il faut distinguer aussi par type d'espèce. Et aussi par type de zoo. Parce que là, monsieur de la Panousse, et effectivement, Touareg mène un programme sur les batraciens qui est effectivement assez exemplaire, puisque ce sont eux qui sont parmi les espèces les plus menacées et pour lesquelles les trois quarts des zones font rien. Mais vous avez différentes études qui ont été menées, notamment par l'association Born Free, par NCAP et par Code Animal, mais également il y a différentes études au niveau international, au niveau des zoos, du World Association Zoo, etc., qui montrent effectivement le rôle est globalement minime. Effectivement, il y a les exemples, notamment surtout pour des ongulés, qui ont été cités par Monsieur de la Panousse, et essentiellement localement, ce sont généralement des réintroductions ex situ, c'est-à-dire ce sont des programmes scientifiques adaptés qui ont lieu sur place et qui ce ne sont pas des animaux qui viennent des zoos. Et quand on parle des vautours fauves, parce que je vois les vautours fauves venir et d'autres exemples, il y a quelques exemples comme ça, ce sont des espèces locales qui ont été réintroduites localement en France. Mais pour tout ce dont on peut parler, par exemple les grands carnivores, voilà, on va parler de quelques chiffres quand même pour qu'on parle concrètement. Donc il y a une étude de Biological Conservation de 2008 qui montre effectivement que la plupart des prédateurs nés en captivité meurent s'ils sont relâchés. Tout ce qui concerne les grands carnivores et que notamment tout ce qui est tigre et loup en liberté n'ont que 33% de chances de survie. L'étude a examiné 45 réintroductions de carnivores dans le monde et donc mis en doute le rôle des zoos et des programmes d'élevage en captivité dans les efforts de conservation. On parle bien pour ces espèces-là.
Longtemps que les zoos savent ça. On n'a pas besoin d'études pour ça. C'était notre époque, justement, à Paul et à moi. On aurait pu croire à cette époque. Il y a eu quelques essais qui ont été faits, qui ont été désastreux. Tout le monde le sait. Un faux, on ne le réintroduit pas comme ça. Il ne faut pas oublier des banques de sperme à ce moment-là qui peuvent être potentiellement, il y a des embryons qui sont conservés. L'intérêt des zoos, c'est toutes les données que l'on a actuellement, que l'on capitalise, tout ce qui pourra être ensuite refait. Moi, je le vois en tant que vétérinaire. Il nous arrive très souvent d'aider dans la nature et vice-versa d'ailleurs. Ce sont tous les contacts et les données qui sont, grâce à tout cela, des pourvoyeurs, là aussi, des possibilité pour la nature future. C'est pas la réintroduction de l'animal en soi. Ça, c'est la notion obsessionnelle à la fois du public, et ça, nous le regrettons, parce qu'on a parlé.
C'est la communication aussi.
Le public, mais alors, nous allons après faire. Il y a le public et il y a la communication. Le public, si vous faites effectivement quelque chose sur les dents de rebattre, les insectes et tout, il n'en veut pas. Tout ce dont a parlé Michel, qui sont des animaux très, très précieux, ça ne les intéresse pas. Ils veulent les orang-outans, les lions, enfin, etc. Bon, un zoo, il faut que ça vive, y compris au muséum. Donc, nous sommes obligés d'avoir quelques espèces communes. Et par ailleurs, il y a les médias. Dans les médias, écoutez, moi qui suis, paraît-il, une star.
Oui,
autrefois, j'étais zéro, maintenant je suis héros. Parce qu'on est passé, nous, les vétérinaires de zoo, de rien, parce que je me faisais insulter copieusement. Je me suis toujours fait insulter copieusement. Maintenant, dans les médias, nous sommes les dieux. Tout ça ne veut rien dire. Ça, ce sont les médias qui ne veulent. On les connaît par cœur. Elles arrivent très vite. Il faut faire une espèce rapidement et effectivement efficace. Un bébé, une grosse opération. Et voilà. Ça, nous n'y pouvons rien. C'est toutes les télés suivent. Appelez pour dire que vous avez sauvé tel ou tel insecte ou grenouille. Il n'y a personne.
Michel Saint-Jean.
Oui. Pour réintroduire une espèce, il faut que les causes du déclin soient supprimées. Donc, la plupart des espèces aujourd'hui ne sont pas réintroductibles directement. Donc, on a réintroduit beaucoup d'espèces. Les zoos ont les animaux qui ont vécu en zoo ont été utilisés ensuite pour former des élevages sur le terrain avant la réintroduction. Donc, on parlait tout à l'heure des oryx d'Arabie. Donc, moi, personnellement, dans les années 90, j'ai travaillé pendant 5 ans à la réintroduction des oryx d'Arabie.
C'est quoi?
L'oryx d'Arabie, c'est une des espèces...
Comment vous êtes un vrai public, vous,
hein. C'est quoi? L'oryx d'Arabie, c'est une antilope blanche et noire qui vivait dans la péninsule arabique jusque dans les années... 70, où l'espèce a été exterminée. D'accord. Il en restait quelques individus dans des zoos, en particulier dans des zoos américains, et c'est à partir de ces échantillons, à l'origine, il y avait 13 individus, qu'une population de sauvegarde a été créée, transférée en Arabie Saoudite, un élevage a été mis en place qui a produit quelques centaines d'individus, et aujourd'hui, vous avez environ 1000 oryx qui vivent dans le désert, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Une autre espèce qui a été réintroduite grâce aux zoos, c'est le tamarin lion doré, qui est aussi qui est une espèce de petit primate calitricidé qui vit en Amérique du Sud. Et pour moi, c'est un des exemples de la réintroduction, car grâce à cette espèce, le Brésil a mis en place des mesures pour préserver la forêt atlantique brésilienne qui était quasiment... qui avait quasiment disparu, et ça a été un des déclencheurs, et ça a permis la prise de conscience par les Brésiliens de la perte de ces habitats, et donc on a sauvé grâce au tamarin lion doré plein d'autres espèces. Donc ça a été une espèce d'espèce parapluie, et donc les zoos aujourd'hui, pour terminer, n'ont pas pour rôle de produire des animaux pour la réintroduction. Ils font ce qu'on appelle des élevages conservatoires, des conservatoires de gènes, et ces individus permettront ensuite, dans le futur, si le besoin s'en fait sentir, de créer des populations qui permettront la réintroduction.
Julie Lane.
Alors, pour les tamarins lions, puisque j'ai travaillé sur différents programmes de réintroduction et justement d'évaluation de la biodiversité au Brésil, notamment dans la forêt transatlantique et sur les espèces comme ça, le tamarin lion, en l'occurrence, sa réintroduction n'est pas probante pour l'instant et on a beaucoup de problèmes au niveau de sa survie pour l'instant. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un bon exemple.
C'est aussi dû en partie en excès au fait que les gens rentrent de plus en plus dans la forêt, car le problème sera toujours là.
Tout à fait, mais bon, le problème...
Et on est quand même passé de 30 individus à 3200 individus lors du dernier recensement en 2016, donc c'est quand même pas mal.
Voilà, mais il décède. Comme disait mon voisin...
Il décède, vous aussi, hein, moi aussi.
Voilà. Tout le monde.
Mais, hein. Mais comme disait... Oui, mais là, il décède de causes non naturelles. Comme disait mon voisin, il faut d'abord s'atteler aux causes. Le problème, c'est qu'on peut réintroduire autant d'animaux que l'on veut. Si on ne s'attaque pas aux causes, ça ne sert à rien.
C'est exactement ce que disait Michel Saint-Jacques.
On le sait, c'est la pauvreté locale, en général.
Les causes, ce n'est pas que la pauvreté. C'est ce qu'on appelle également l'accaparement des terres. C'est ce qu'on appelle également... la perte de la biodiversité, c'est le changement climatique. La sécheresse provoque effectivement des problèmes. J'ai travaillé en l'occurrence avec le Muséum d'Histoire Naturelle. On a vu le changement de 2 degrés fait que, par exemple, au niveau des proies, au niveau des insectes, au niveau de la végétation, elle monte, au niveau de montagnes, etc.
Ça, je crois que tout le monde est d'accord,
et donc, ça change les choses. Donc, ces aspects-là sont aussi à prendre en compte. Vous avez les aspects effectivement de lutte interne, vous avez les aspects de corruption, vous avez le problème de l'Asie, les Chinois sont très présents en Afrique, etc. Vous avez différentes problématiques comme
et
ça qui sont géopolitiques.
Et alors, quel est le problème avec les Chinois ?
Ben, le problème des Chinois, c'est effectivement tous les trafics qui vont vers l'Asie, que ce soit les écailles de pangolins, que ce soit les cornes de rhinocéros.
Donc, la pauvreté des gens au départ.
Oui. Ou l'appât du gain.
Non, ouais. C'est plutôt l'appât du gain que la pauvreté.
Oui, mais alors, madame, voilà. Là, je me fâche, parce qu'en fait, vous allez contre la cause que vous défendez.
Parce qu'en
Afrique, où j'ai travaillé pendant des années, ce que je raconte dans mon livre, pendant des années, il faut, si vous voulez changer les causes sur le terrain, et que vous attendez de le faire, il n'y aura plus d'animaux à remettre dedans. Et nous, les parcs zoologiques, le rôle, comme vous le dites, le rôle de conservation de génétique, ça c'est le rôle des parcs zoologiques, parce que le jour où on arrivera enfin à avoir des conditions bien pour les remettre, si vous n'avez plus d'animaux, vous n'avez rien à remettre. Donc il y a un équilibre. Et dire qu'il faut d'abord résoudre les problèmes...
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait également s'attaquer à ces causes-là et qu'il ne fallait pas les nier. Que la question n'est pas juste de réintroduire...
Oui,
c'est tout ce que j'ai dit.
Il faut remettre...
Laissez-moi finir. Et au niveau génétique, que ce soit différents chercheurs, dont le professeur Nouet, il vous explique effectivement le problème de ce brassage génétique. Non, mais ce n'est pas le seul à le dire. Je peux vous citer d'autres études sur, effectivement, la faiblesse...
J'adore, ça me ramène à ma petite enfance.
Eh ben voilà.
Il est plus vieux que moi.
Alors, professeur Noël, je vais vous dire une chose.
Non, mais attendez, je vais d'abord exprimer avant que vous le critiquiez. Oui. Voilà.
Manifestement, ce Noël met le feu aux poudres.
Voilà. Non, mais disons, voilà. L'intérêt, ce n'est pas le seul, mais je pourrais vous citer des tas d'études au niveau international qui montrent effectivement le problème des animaux dans les eaux. Il faut que vous ayez un minimum de réservoir d'espèces pour qu'une espèce soit viable génétiquement.
D'accord.
Et donc, vous avez ce qu'on appelle la panmixie dans les eaux qui, effectivement, est une perte génétique. La sélection est opérée non pas par les animaux, mais elle est opérée par l'homme. Ce qui est un animal qui est bon pour un zoo est un animal qui va se montrer au public. Le public paye, le public veut le voir. Attendez, laissez-moi. Si, dans la plupart des zoos, c'est ça. Les gens payent, les gens veulent le voir. Peut-être pas chez vous, mais dans la plupart des zoos, c'est comme ça. Alors qu'un bon animal pour la réintroduction est un animal qui va grogner, qui va se cacher, qui va fuir l'humain, etc. Ce qui est contraire avec les objectifs.
C'est un mauvais client,
qui est contraire aux objectifs et aux besoins de rentabilité, etc. En tant qu'éthologue, je vais vous dire, voilà, un des exemples, quand j'ai dû faire mon stage, les trois quarts des stages qui étaient demandés par les zoos n'étaient pas sur l'observation des animaux, mais étaient de comment améliorer le temps de parcours au niveau des animaux dans les zoos. Si, pour améliorer, vous pouvez dire à la tête, c'était les trois quarts des zoos qui nous faisaient des demandes, c'était parce que nous sommes des animaux, c'était d'augmenter le temps de parcours et d'amener les gens, puisque nous sommes des humains, à changer les comportements pour qu'ils passent plus de temps devant les cages, etc.
Je vais contre ça.
Voilà.
Ce n'est pas vrai.
Attendez, le débat va se poursuivre dans quelques instants. Tout de suite,
pour mes
je vous propose même de faire une pause, Paul Delpanouze.
Ce n'est pas vrai.
Ah bah, c'est la vérité, si.
Non. Non. D'accord. Non.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Sisyphus peered into the mist, the stone stole from the precipice. Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morn, the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. See my house down there, but I lost it long ago. Thank you.
Et c'est le retour d'Andrew Bird, chanteur siffleur. Il sera en concert avec la programmation au Trianon à Paris le 14 juin. La programmation animale, bien sûr, de Jean-Baptiste Audibert.
Situé dans la ville de Surabaya en Indonésie, ce zoo est un vrai cauchemar pour les animaux. En 2013, une girafe a perdu la vie avec plus de 20 kilos de déchets plastiques dans le ventre.
Noix vivante jetée en pâture au lion.
J'adore ça. On a lu sur un site internet que l'on pouvait jeter des animaux vivants du bus.
Vendus 5 euros pièce, ces volailles mettent un peu de beurre dans les épinards de ce parc safari installé sur les contreforts de la muraille de Chine.
Ce girafon âgé d'un an et demi a été euthanasié avec un pistolet car le zoo de Copenhague estime que son patrimoine génétique n'est pas assez intéressant.
Avec donc, parc animalier, conditions animales dans le NRV La Suite ce soir, avec pour en parler Paul de la Panouse, le fondateur du parc de Thoiry et de bien d'autres, Michel Saint-Jalme de la Ménagerie à Paris, Marie-Claude Bomsel, docteur vétérinaire, star et héroïne, et Julie Lane, éthologue de terrain et consultante auprès de l'association Code Animal. On vient d'entendre à l'instant des échos pris un peu partout dans le monde, dans cette internationale de la maltraitance animale dans les parcs animaliers. La France se situe à quel niveau?
Pas mauvais du tout.
Pas mauvais
oui,
du tout.
Non, bon, en l'occurrence, une bonne moyenne européenne, pas une fois de plus, un peu derrière les Allemands et encore. Bon, c'est question de moyens. Je ne parle pas du muséum. Moi, je peux en parler parce que Michel est plus gêné. Le problème du muséum, c'est qu'un problème étatique et nous traînons, comme toujours, dans l'administration pour rénover alors que les autres vont beaucoup plus vite. Hélas pour nous, car nous en souffrons, nous qui y travaillons en premier lieu, hein, que ce soit les soignants, les vétérinaires, les directeurs. Mais ça, nous restons quand même dans une excellente moyenne, et scientifiquement, il n'y a aucun problème.
Sur la maltraitance, Paul de la Panouse, oui.
Alors, la question n'est pas là. Je réponds à votre dire que la pauvreté...
Ah, on revient en arrière, alors.
Vous ne pouvez pas laisser répondre
avec Julie Lane.
Je suis contre le fait de dire que ça ne sert à rien de reproduire les animaux en parc zoologique, parce que génétiquement, a dit le professeur Nouette, ils ne sont pas assez nombreux pour que génétiquement ça redémarre.
Le professeur Nouette? Non, mais attendez.
Oh, ce professeur Nouette!
Non,
je ne peux plus entendre son nom.
Je veux parler ici sur de domestication. Le professeur Nouette.
Oh! Il y a un pari.
Au club Chouette à Nantes, a dit la domestication, la preuve que la domestication réduit les animaux en esclavage, c'est que le cerveau du chien par rapport à celui du loup est beaucoup moins important par rapport au poids de son corps. Je me suis levé, je lui ai dit, professeur, vous n'avez pas le droit de dire ça à ces jeunes. Pour la bonne raison que le chien a perdu par sélection la possibilité de chanter, un certain nombre de comportements automatiques adaptés au territoire sauvage, mais par contre, le chien a gagné une capacité de partager la vie affective des hommes qui est extrêmement importante. Et vous dites ça à des jeunes qui sont là pour protéger les animaux sauvages parce qu'ils ont un chat, parce qu'ils ont un chien et que c'est eux qui leur ont appris à aimer les animaux. Professeur Nouette. Alors, je vous dis
non,
d'autre
mais,
part.
Je vais vous dire d'autre. De façon générale.
Et ensuite, Michel Saint-Germain.
Pour qu'une espèce puisse se reproduire. C'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'individus pour qu'il puisse y avoir une reproduction sans qu'il y ait effectivement consanguinité, etc. Il y a une loi générale acceptée internationalement, reconnue par, notamment l'OD bon. Pelletier et pas mal de gens, etc., au niveau international. C'est la loi, c'est le seuil de 50-500. Aujourd'hui, un anthropologue australien, Cameron Smith, en 2014, a refait une étude en disant qu'il fallait étendre ce seuil à 5000. C'est-à-dire qu'en delà de 5000 espèces, 5000 individus d'une même espèce, vous ne pouvez pas prétendre que cette espèce soit viable au niveau génétique. Il a même fait une projection sur l'être humain.
On peut parler deux secondes.
Je suis enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle et j'enseigne en génétique des populations et en génétique en gestion des petites populations. Donc les chiffres de 250 à 500 sont exacts. Et les 50, c'est le nombre de fondateurs. Donc pour pouvoir gérer une population en captivité de façon viable sur le long terme, il faut un nombre situé entre 20 et 50 fondateurs au départ. Les fondateurs, c'est les animaux qui viennent du milieu naturel. Et ensuite, il faut les reproduire entre eux de manière à éviter toute dérive génétique et éviter toute consanguinité. Donc il y a des techniques pour ça. On utilise des petits logiciels, etc. Il faut qu'il y ait le même nombre de descendants pour chacun des fondateurs. Et de cette manière, on va réussir, et c'est l'objectif des programmes d'élevage aujourd'hui en captivité, de préserver plus de 90% de la variabilité génétique sur une période de 100 ans. Pour vous donner un exemple, les orangs-outans qui sont présentés aujourd'hui à la ménagerie du Jardin des Plantes, Il y a, pour les orang-outans de Bornéo, 76 fondateurs dans la population. Nénette, la fameuse Nénette du Jardin des Plantes, qui aura 50 ans cette année, en est une. Elle a été prélevée dans le milieu naturel à une époque où on pratiquait encore ce genre de choses. Ça s'est arrêté en 1973 avec la CITES, qui est la Convention internationale pour le commerce des animaux. Et à partir de 1973, on a arrêté de prélever des animaux dans la nature et on a travaillé dans les eaux avec les animaux nés en captivité. Donc aujourd'hui, tous les animaux sont nés en captivité, sauf quelques-uns, comme justement la fameuse Nénette. Et donc les orang-outans, aujourd'hui, vous avez 98% de la variabilité génétique de l'espèce qui sont encore présents en captivité.
Et alors, vous avez les chevaux Przewalski, il en restait 13 en 1900, après la guerre. Maintenant, il y en a 1200 et réintroduit en Mongolie. Le bison d'Amérique, 60 000 dans le monde. Au départ, il en restait une cinquantaine. Vous avez les bisons d'Europe, même chose. Vous avez les humains, nous tous, on est complètement dégénérés, d'après ce que vous dites. Pour la bonne raison, il y a eu 10 000.
D'après vos études.
Ce sont pas mes études. Je vous cite des scientifiques qui sont reconnus internationalement.
Nos ancêtres sont 10 000 Homo sapiens qui, pendant 5 à 10 000 ans, sont sortis d'Afrique. Et toutes les populations humaines actuelles, y compris les Chinois, sont parties de petits groupes de quelques dizaines d'individus sortis d'Afrique. Et ceux qui sont les frères aînés de la population, c'est les bushmen des dieux sont tombés sur la tête, qui ont effectivement une plus grande diversité génétique, bien que se mariant qu'entre eux, que nous tous sur le reste de la Terre. Et alors, j'aimerais vraiment que l'on ne mette pas en dogme des choses qui, dans la réalité, ne se traduisent pas comme ça. Les chevaux de Przewalski sont en parfaite santé.
Ils souffrent de consanguinité, d'après les études. C'est pas exact ce que vous dites.
Non, on les réintroduit.
Et vous les réintroduisez, certes, et c'est très bien. Et le bison est aussi, mais il souffre de consanguinité. C'est une réintroduction qui n'est pas si réussie.
Il y a une évolution. Et qu'il y a beaucoup de populations parties de très peu qui se sont très bien reconstituées.
Marie-Claude Bomsel.
Non, je veux vous dire une chose, ça me dépasse un peu parce que le niveau des études de madame est un peu au-delà de mes possibilités intellectuelles. Parce que je ne sais pas si les gens ont compris tout ce qu'elle a lu. En tous les cas, il le fait tech, moi qui ai suivi les chevaux de Przewalski. Oui, il y a eu effectivement des phénotypes différents. Phénotype étant l'aspect, je parle pour les gens. Mais ça ne veut rien dire. Vous savez très bien que quand un clone à l'animal domestique, il n'est pas identique. Vous savez, la génétique est une notion assez nouvelle. Et en fait, on fait des études telles que vous les citez, puis elles sont contredites. C'est le propre problème de la science. Ce ne sont pas des dogmes. Les chevaux de Przewalski, actuellement réintroduits, peuvent même se métisser avec des chevaux autres, parce qu'au niveau même, alors même qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes, ils sont quand même potentiellement reproduits avec d'autres. Donc on découvre chaque instant. Ne prenez pas les études scientifiques comme des dogmes.
Non, attendez,
moi,
je ne prends pas les études scientifiques.
Moi, j'ai la chance d'aller très souvent dans la nature et de constater que tout ce que me disent mes études ou celles d'autres sont contredites. Et heureusement, c'est le principe même de la science. Ce qui me fascine, c'est que vous êtes vraiment comme dans une église. Vous nous lisez des articles.
Non, je ne vous lis pas des articles. Hein. C'est simplement que par rapport au reproche qui est souvent fait aux associations de parler sans savoir et de ne s'appuyer sur rien, je vous donne également des faits.
J'ai bien insisté
sur le fait que je suis une éthologue de terrain. C'est-à-dire que je ne passe pas mon temps à publier des papiers, je suis sur le terrain. J'ai travaillé massivement.
Laissez-moi finir.
Et donc, j'ai travaillé notamment, sur la plupart des espèces emblématiques, c'est-à-dire celles qui attirent les gens dans les zoos et sur lesquelles on leur fait croire que les zoos ont un rôle de conservation, à savoir la majeure partie sont des carnivores, ce sont les pandas. Là, les derniers pandas, Xianxian qui a été réintroduit à la nature, il est mort. La plupart
Les pandas, je viens de Chine, j'y étais deux fois.
Oui, mais attendez.
Comment les Chinois les réintroduisent. C'est-à-dire que les Chinois, actuellement, ils veulent eux aussi faire du buzz. Bon, on sait que c'est beaucoup d'argent, les pandas. Donc, ils font des fausses réintroductions momentanément avec les médias, c'est mis en international. Il faut qu'ils apprennent comme
Il y a les chiffres qui ont été.
C'est vraiment la fin de l'émission, c'est impossible.
Il n'y en a pas d'autres qui ont été
réintroduits.
Je suis obligé d'arrêter le débat pour l'instant, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Merci à vous tous et à vous toutes. Paul de la Panouse, Toirée, Une aventure sauvage vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Marie-Claude Bomsel, Mon histoire naturelle vétérinaire auprès des animaux sauvages, c'est toujours disponible chez Artaud. Julie Lanne, je renvoie vers votre site, julielanne.com, et Michel Saint-Jalme vers celui du Muséum national d'histoire naturelle, mnhn.fr. Et pour tous ceux qui souhaitent aussi en savoir plus, je vous informe que Laurence Paoli publie Zoo, un nouveau pacte avec la nature. Ça sera jeudi prochain aux éditions Buchet-Chastel. Thank you.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. Souvent, je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs.
C'était Eddy de Préto dans le Énervé. Il sera en concert au Zénith de Paris le 22 mars, puis plusieurs dates à l'Élysée-Montmartre, toujours à Paris, dès le 14 mai. Allez, le Énervé, c'est fini pour aujourd'hui. Le Énervé, cette année, c'est chaque jour, hein, dès 18h, en avant-première sur franceinter.fr, en podcast, ou alors 22h minuit à l'antenne. Comme tout le monde, on reste en lien sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous avez vraiment le choix, avec le hashtag EnervéFi. Marion Lelay et Juliette Medeviel, ça c'est pour la réalisation. Virginie Rosic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon et Gaëtan Lévy, c'est pour la préparation. Stéphane Boja était ce soir à la technique. Et demain, on se retrouve avec du canard à l'orange au menu pour Nicolas Briançon, le mari, François-Vincent Telly, l'amant du boulevard dans le placard. À leur côté, David Goudreau signe La Bête et sa cage, une plongée terrifiante dans une prison québécoise. Et dans le Énervé la suite, ça marche pour le climat. Ouais, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu m'as donné rendez-vous demain.